Oui, parce que j'ai hésité à venir en fait. Hein, il y a 2 jours, quand j'enseignais au médecin à la faculté de médecine, j'avais très peu de voix et je me suis dit, oulala, est-ce que je viens avec le coronavirus? C'est pas ça. Parce que je revenais de France, j'étais enseigné aussi à Caen, puisque j'enseigne aussi en France et à Caen, à Master et à Sciences Po Lyon. Et j'ai essayé de voir la carte de la France, puisque la France a été touchée avant que l'Italie ne déclenche tout ce qu'on a été. Pour Milan, c'est vrai, ça fait plus de 8 mois, j'ai pas été en Italie, donc c'était bon. Mais pour la France, et puis finalement, j'ai vu que dans mon train, sûrement, il n'y a pas quelqu'un qui vient de ce coin-là. Et je me suis dit, je prends le risque de venir. Je prends le risque de venir, pourquoi? Parce que j'ai dû remplacer quelqu'un, en fait. Hein. C'était le pasteur de l'église de Montreux, Claude Alain Nutti, qui aurait dû passer aujourd'hui, et moi je devais prêcher chez lui, je le ferai d'ailleurs le dimanche prochain. Et il m'a demandé, mais du moment où tu es un peu libre, est-ce que tu ne viendrais pas ici? Je dois vous avouer que je ne connaissais pas l'église. Au début, quand il m'a dit, j'ai dit, ouais, c'est l'église de plein palais, parce qu'ils ont mis église internationale aussi, oui, en fait, c'est leur slogan. Mais c'est l'église évangélique de plein palais. Je dis, oh, je connais Rico, on a fait beaucoup de voyages ensemble, même en Centrafrique, et j'ai accepté. Et après, j'ai vu un nom qui sonnait plutôt anglophone, John Glass. Je me suis dit, oula, où est-ce que j'y vais? Et donc, finalement, on a pu discuter avec John, on a échangé, on s'est pas vu, mais le courant a passé, et j'ai accepté. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je suis là devant vous pour l'honneur de partager avec vous pendant quelques instants un certain nombre de points, hein, en tant que tel, parce que je vois que l'église est bien structurée avec la recherche d'un nouveau pasteur, les critères très bien définis. Je crois que je vous apporterai pas grand chose, d'autant plus que vous m'avez beaucoup apporté dans les chants et les louanges. Et c'est pour ça que j'aime bien visiter des nouvelles églises, voir comment notre Seigneur et le Saint-Esprit agissent aussi ailleurs. J'ai un gros problème, c'est que je parle d'habitude 6 heures. Et là, on m'a dit de parler 45 minutes. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire l'effort de pouvoir parler 45 minutes le message que j'ai à dire. D'autant plus qu'on va parler de la vie d'un homme qui est très connu, mais qui m'a amené à parler de cela parce que vu ce que je vis en ce moment, mais également vu ce que nous vivons en tant que chrétiens, mais également dans sa vie et dans les leçons de la vie de cet homme qui s'appelle Job. On a beaucoup de leçons à tirer de notre temps aujourd'hui ou bien de notre époque dite moderne, l'an 2021, mais on peut aussi tirer beaucoup de leçons de la vie de Job et de la vie de cet homme-là. Alors, je ne sais pas si le verset n'a pas été donné, mais je vous inviterai à lire Job chapitre 19, le verset 25. C'est tout un petit verset, mais qui a beaucoup d'importance. Dans ma Bible, il est dit, ici, Job 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Amen. Il crie ici, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Quand on lit ce verset, comme je vous le dis, on a l'impression que c'est un homme qui a tout eu, qui vit dans le bonheur, qui crie ainsi. Mais, chapitre 19, verset 25, hein, Job, chapitre 19, verset 25, on a l'impression quand quelqu'un crie, mais je sais que mon Rédempteur est vivant en tant que tel, et il se lèvera le dernier. Quand on prend seulement ce verset-là, hors contexte, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient de gagner un gros lot loto, c'est quelqu'un qui vient d'avoir une Ferrari ou bien une marque une voiture de dernière marque, c'est quelqu'un qui vient d'être nommé à un poste extraordinaire, qui crie ici que je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais par contre, si on remet dans le contexte, on va voir que la déclaration de cet homme-là intervient au pire moment de sa vie. En tant que tel. Il ne crie pas mon Rédempteur est vivant quand il a l'argent, quand tout va bien, mais il est vraiment au plus profond de la dépression, il est au plus profond du malheur humain, on va dire il est au summum ou au sommet de tout ce qu'on ne voudrait pas avoir dans notre vie. Voyez-vous? Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin en tant que tel. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle en tant que chrétiens à avoir de l'impact. Un chrétien qui n'a pas d'impact, ça me pose énormément de problèmes. On doit avoir de l'impact là où nous sommes, que ce soit au niveau de notre famille, que ce soit au niveau de notre société, que ce soit au niveau de tout ce que nous faisons. Dieu nous appelle à avoir un impact. Et pour avoir un impact, il faut avoir des certitudes. Un chrétien est quelqu'un qui a des certitudes. La vie chrétienne est basée sur des certitudes. La vie chrétienne n'est pas basée sur des à peu près. La vie chrétienne n'est pas basée sur des probabilités. La vie chrétienne n'est pas basée sur des peut-être. La vie chrétienne est basée sur des certitudes. Et surtout dans notre temps où les choses vont devenir de plus en plus difficiles pour nous chrétiens, il faut qu'on ait des vraies certitudes. Et ici, il va dire, mais je sais. Il ne va pas dire peut-être que, je pense que, il me semble que. Non, il va dire, je sais que mon rédempteur ou mon avocat ou mon géol, c'est le terme que je choisis, on interprète aussi rédempteur ou même avocat, c'est géol est vivant. Il va le dire. Il faut qu'on ait des certitudes. Parce que les temps où nous allons, et je peux vous le dire par connaissance, non seulement parce que j'enseigne, mais parce que j'assiste tout le temps, cette année je ne le fais pas vu la santé de ma femme, mais j'assistant tout le temps au Conseil des droits de l'homme qui se tient en ce moment d'ailleurs au Palais des Nations ici, et dans beaucoup de forats, les temps sont difficiles pour nous chrétiens. Ça, il faut qu'on se le dise. Et c'est important pour nous de savoir que plus nous allons avancer, plus on va voir que les temps vont être difficiles pour nous, parce que tout ce qui va aller contre la parole de Dieu. En discutant avec Pascal tout à l'heure, on a parlé de l'intervention séminaire sur le créationnisme, qui est très important pour nos enfants et pour nous-mêmes, pour avoir un certain nombre d'éléments pour lutter, par exemple, contre la théorie de l'évolution qui tente à remettre en cause ce que Dieu fait. Et cet homme qui est là, ici, Job, qui dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, dans un cri de révolte, il va crier cela, mais dans un cri aussi d'affirmation de sa foi par rapport à ce qu'il vit, est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? Parce qu'il veut un changement dans sa vie, parce qu'il croit qu'un changement arrivera dans sa vie. L'apôtre Paul, il y a un verset dans Éphésiens 6, je pense, qui m'a marqué. Parce qu'il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. En fait, quand on a tout surmonté, on devait être content. On sait qu'en général, quand vous regardez un match de football, quelqu'un a la coupe, Champions League ou quelque chose, quand vous gagnez quelque chose, vous gagnez un poste, vous dites, ouais, je suis arrivé. Mais dans la Bible, on nous dit d'avoir les armes de Dieu pour surmonter toutes les choses qui viendront après en tant que telles. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose d'acquis à un certain moment, il nous faut nous préparer à beaucoup plus pour avoir de l'impact. Et pour cela, il faut avoir des certitudes. La vie chrétienne est basée sur des certitudes. Alors, à l'exemple de Job et de beaucoup de chrétiens, nous allons voir aujourd'hui que le monde a des certitudes sur lesquelles le monde est fondé depuis la création du monde, mais que ces certitudes-là sont éphémères. Mais de l'autre côté, et c'est la bonne nouvelle, nous avons des certitudes qui sont éternelles et qu'il faudrait que ce matin, je voudrais juste vous rappeler et sur lesquelles nous devons nous baser. Dans la vie de Job, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a le caractère éphémère de trois choses, trois éléments fondamentaux ou trois valeurs fondamentales de notre vie moderne. La première chose, c'est quoi? C'est le statut social. Là, la vie de Paul, quand il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant », c'est qu'il avait tout perdu. Le contexte de sa vie, c'est qu'il avait tout perdu. Job était un homme qui était riche. Il avait des biens. À l'époque, on ne comptait pas les biens par rapport au compte en banque, mais on comptait plutôt les biens par rapport au cheptel. Si vous aviez un grand troupeau, comme au Rwanda, au Burundi aujourd'hui, dans certains pays, vous êtes riche par rapport au bétail que vous avez. Vous n'êtes pas riche par rapport au compte en banque. Et il était très riche, il était considéré. Et puis un beau matin, il y a une guerre qui se déclare, à laquelle quasiment on va dire qu'il était étranger, plutôt. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui va se présenter devant Dieu et qui va dire, j'ai parcouru mon royaume, j'ai vu toute la terre, j'ai fait mon business, comme il le fait aujourd'hui, je dirais, et j'arrive à un moment où il y a un monsieur qui vit différemment. Et ce monsieur vit différemment, pourquoi? Parce que toi, Dieu, tu le protèges, tu lui donnes tout, en tant que tel. Vous voyez? Donc c'est aussi le contexte dans lequel nous vivons. Au moment où je vous parle, le diable essaye de nous accuser. Le diable essaye de dire à Dieu, mais si tu le bénis, s'il est là avec toi, c'est parce que il est là. Et voyez-vous, et ce combat-là, Job n'est même pas au courant, parce que c'est pas lui qui a écrit ce livre-là. C'est quelqu'un qui va avoir la révélation. On dit plutôt que c'est Moïse, parce que dans le temps, on essaie de voir que c'est au temps d'Abraham et autres, qu'on parlait plutôt de cheptel, signe de richesse. C'est pas Job qui l'écrit, c'est Dieu qui révèle, qui dit que le diable était en sa présence, et il va accuser cet homme-là. Dieu lui dit, tu as parcouru la terre. Il a dit, oui, j'ai parcouru la terre. Les lois sont à ma faveur. Les gens m'obéissent. Les gens font tout ce que je veux. Mais il y a quand même cet homme-là qui est différent. Il a une vie qui est différente et il te craint. Il fait des sacrifices. Il respecte ta loi. Pourquoi? Parce que tu le bénis. Et parce que tu le bénis, dans ce cas-là, je suis sûr que si tu lui enlèves tout ce qu'il a, je suis sûr que si tu ne lui donnes plus la joie, la beauté, la famille qu'il a, les biens qu'il a, il va se retourner contre toi, parce que s'il est pauvre, il va t'abandonner et sa louange ne sera plus. Et Dieu va le permettre. Comme Dieu permet certaines choses aussi dans nos vies, en tant que telles. Et Dieu va permettre cette situation-là. Et Job, Dieu va lui dire, ok, vas-y. Et puis en un jour, qu'est-ce qu'il va perdre? En un jour, il va perdre et tous ses biens, et tous ses enfants, et plus tard, il va perdre même sa santé. Voyez-vous? Les trois fondements de notre vie moderne, c'est ça. La première chose, c'est le statut social. Nous sommes dans un monde, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes rien. Hein? On s'accroche parfois, même en tant que chrétien, nous nous accrochons parfois à notre travail. Parce qu'on sait que c'est par le travail qu'on est reconnu dans la société. Le statut social. Si vous êtes politicien, vous êtes quelqu'un. Regardez aujourd'hui le salon de Davos, plutôt le forum de Davos. Donald Trump est venu, vous avez vu tout, hein, tout un remue-ménage. Une fois, j'ai passé à l'ONU, j'ai vu, on a barricadé la route. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que Vladimir Poutine était venu à l'ambassade suisse, de Russie en Suisse. On a barricadé tout le monde. Personne ne pouvait passer. On a même dévié les bus qui devaient passer. Pourquoi? Parce que c'est un président, non pas de n'importe quel pays, mais le président d'une puissance. Et quand on a un statut social, on nous respecte. Voyez-vous? Et regardez les émissions de temps présent. Les chômeurs. Quelqu'un qui est chômeur, c'est quelqu'un à la limite dans la société, on le met à l'écart en tant que tel. Donc le statut social qu'on a peut faire qu'on se base là-dessus. Et Job était considéré. Dans la Bible, si vous lisez l'histoire de Job, on a dit qu'il était considéré. Job n'était pas n'importe qui. Job était dans le conseil de sa ville. Il était dans tous les conseils. Si on devait prendre une décision, il fallait absolument que Job donne son avis. Le statut social. Et dans notre monde, c'est la même chose. Je suis à l'université, mais vous ne pouvez pas savoir. Il y a des professeurs, par exemple, si vous les contredisez, c'est fini. C'est comme si le monde s'écroule. Parce qu'ils sont puissants. Je travaille avec des génies. Hein, des génies, par exemple, une jeune autrichienne qui est la star en ce moment. Vous allez bientôt voir dans les journaux, on parle que d'elle, Silke Graber. C'est une génie, pourquoi? Dans ce sens que c'est la première femme au monde qui a pu inventer un moyen, on va dire entre guillemets, de ressusciter un mort. Dans ce cadre-là, parce que quand on fait l'autopsie, quelqu'un est mort, et quand on va en justice, il faut déterminer la cause pour vraiment condamner celui qui a fait les choses. Et en général, les gens disent, j'ai rien fait en tant que tel. Mais elle a découvert un moyen qui permet de changer. Même s'il n'y a plus de sang dans votre corps, on met un liquide, et puis tout d'un coup, on peut même, avec l'internet, vous ressusciter et montrer que ben, c'est tel impact de balle, c'est tel couteau qui a pu tuer la personne. Voyez-vous? Donc voilà, donc c'est des gens qui sont extraordinaires, des gens qui découpent des systèmes qui permettent, juste avec un seul de vos cheveux, on peut savoir ce que vous avez mangé il y a 2 ou 3 semaines en tant que tel. Et c'est des gens qui sont puissants, statut puissant. Les politiciens, on en a parlé, vous êtes là comme moi, vous savez qu'il y a des politiciens qui sont puissants. Le nom de quelqu'un peut ouvrir des portes. Vous citez tel nom, je suis recommandé par tel. Et tout à l'heure, vous avez vu pour le pasteur que vous allez avoir, on a dit, on a demandé des gens quand même sérieux. Parce qu'on a fait confiance à cela. Et donc souvent, dans notre vie aussi, et même en tant que chrétien, notre statut social fait que parfois on se base là-dessus pour dire, ben, j'ai réussi ma vie. Pourquoi? Voilà, je suis bien. J'ai fait des investissements, j'ai fait des placements. Et je crois que notre frère Pascal, qui est dans le domaine des banques, connaît très bien. Hein, vous voyez, par exemple, comme vous dites, Roger Federer va venir, vous allez voir que cette église sera pleine. Parce que c'est Roger Federer. Pourquoi? Parce que c'est quand même le tennisman le plus... Le recordman, c'est l'image de la Suisse. C'est quand même des gens de valeur en tant que tel. Et parfois, nous-mêmes, sans le savoir, on est accroché à ça. Et l'histoire de Job nous montre que, attention, si Dieu te donne un travail, ne t'accroche pas trop au travail en tant que tel. Bénis-le pour le travail. Mais ton statut social ne devait pas être le fondement de ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai rencontré des chrétiens qui un jour, du beau matin, se sont retrouvés au chômage et qui m'ont dit, mais si c'est comme ça, je vais me suicider. Oui, je dis, mais pourquoi? Mais je suis rien. Sans travail, qu'est-ce que je vais devenir? Oui. Pourquoi? Parce que je dis, mais il y a la parole. Non, j'ai mis ma foi dans le travail. Et parfois, ça c'est compliqué pour beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils perdent le travail, c'est comme si toute leur vie s'écroulait. Et Job, il avait mis. Il avait eu ce parcours extraordinaire. Il était considéré. Il était parmi ceux dont la voix comptait, comme on dit, la voix compte dans les décisions. Et puis tout d'un coup, il perd tout. Les ennemis sont venus, ils ont tout détruit. Ils ont pris tout son cheptel, tout son bétail, ils sont partis. Du jour au lendemain, il est tombé en faillite. Tous ses projets étaient partis, on va dire, dans l'eau, étaient partis dans le vent. Il se retrouve pauvre parmi les pauvres. Et ça, ça va le marquer. Mais c'est le même qui dira plus tard, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Deuxièmement, au lieu que ça s'arrête là, Dieu va dire encore, Satan va dire au Seigneur, mais tu sais, et si ses enfants n'étaient pas là? ben, il t'abandonnerait, Job. Et puis Dieu va lui dire, ok, vas-y, je te le permets, vas-y. Et qu'est-ce qui s'est passé? En une seule journée, Job va perdre tous ses enfants. 7 garçons et 3 filles. Il va les perdre. Il va les perdre et il va se retrouver dans une situation où il doit enterrer lui-même ses 10 enfants en tant que tel. Imaginez-vous si vous devez enterrer tous vos enfants, toute votre famille. Est-ce que vous crierez que mon Rédempteur est vivant? Ouais. Et là, il le perd. Il perd ses 10 enfants. Vous savez, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années. Une ONG chrétienne, d'ailleurs, fils, m'a demandé d'aller avec eux au Rwanda parce qu'ils faisaient un beau projet qui m'a touché. Et j'ai essayé de les aider à avoir l'argent du canton de Vaud. Et ils ont envoyé le projet qui a été rejeté. Et parmi tout cela, parce qu'une personne qui devait prendre la décision connaissait bien le président du Rwanda et ne l'aimait pas, l'actuel d'ailleurs, avait décidé que ben, ce projet, on ne le financerait pas. Et donc, ils sont venus me voir en me disant, ben, tu connais bien la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai lu le projet et je leur ai dit, techniquement parlant, oui, il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous avez fait le projet, comme beaucoup de projets d'ailleurs qu'on fait pour l'Afrique. On l'a fait à Genève, vous l'avez fait ici en Suisse. Mais vous n'êtes pas allé sur le terrain, vous n'avez pas discuté avec les gens. Dans ce cas, il faudrait qu'on aille quand même voir le projet. Et pour convaincre les gens, il faut que vous alliez, vous dites que vous avez rencontré les gens. Et ils m'ont demandé à titre bénévole si je pouvais les accompagner. J'ai accepté. Et ce projet m'a marqué, pourquoi? Parce que quand on est allé dans le village, il faisait ce qu'on appelle les villages de réconciliation entre les génocidaires et les victimes. Et les victimes, la majorité, c'était des femmes qui ont perdu leur mari et leurs enfants. Et les hommes, c'était ceux qui ont tué leur mari. Et là, quand on est arrivé, bon, moi, on était content, c'était sympa. Mais quand on a rencontré ces gens, et puis ce monsieur qui se lève, qui dit, mais cette femme-là, j'ai tué son mari, j'ai tué tous ses enfants. Et la femme l'a pris dans son cœur, a dit, mais je t'ai pardonné. Ah, mais moi, ça m'a frappé. Voyez-vous, ça a frappé. On a dit, comment il peut oser faire? J'étais chrétien, je suis chrétien. Mais c'était marquant, on est revenu. Mais quand on est allé voir maintenant les crânes et autres dans les lieux de mémoriaux, c'est là où, je vous assure, on est rentré, on était tous des chrétiens, on est tous rentrés dans sa chambre pendant toute la soirée, on ne s'est pas vu jusqu'au lendemain, en tant que tel. Mais on s'est dit, mais comment il a osé prendre cet homme dans ses bras, qui dit, il a tué son mari, il a tué tous ses enfants, elle est veuve, en tant que tel. Elle est restée même handicapée, parce qu'ils l'ont découpée, mais malheureusement, grâce à Dieu, elle n'est pas morte, mais elle est restée handicapée, mais elle prend celui qui lui a fait tout ça dans ses bras. Ça m'a marqué. Voyez-vous. Et là, Job dit, mais mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? Il vient de perdre 10 enfants. Imaginez, vous avez toute votre famille devant vous, vous les enterrez, et vous continuez de crier que l'Éternel est vivant. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Voyez. Donc, vous voyez, tout cela peut nous arriver aussi. Dieu nous montre que parfois, ce que nous vivons, et sur lesquels nous croyons que nous avons touché le fond, il y a d'autres qui ont vécu plus. Voyez-vous. Et là, la deuxième chose importante de notre société, souvent, c'est la famille. Le fondement de notre société, c'est la famille. Et pour beaucoup, la famille, c'est la chose la plus importante. On peut perdre le travail, mais j'ai ma famille. On met la famille à un stade. Mais cet homme, la Bible dit qu'il a tout perdu. Il perd tous ses enfants. Et là, la femme, dans le désespoir de cause, va lui dire, mais maudit Dieu, il meurt. Comment tu peux adorer encore ce Dieu? Tu as tout perdu. Tu perds ta richesse, tu n'es plus considéré. Les enfants se moquent de toi dans la ville. Et maintenant, tu perds tes enfants. Mais la vie n'a plus de chance. Pourquoi? Parce qu'en plus du travail, du statut social et de la famille, il va perdre quelque chose qui est très important. Et tout à l'heure, j'ai visité un peu le centre, j'en ai vu, c'est la santé. Parce que le diable va revenir vers Dieu, va lui dire, mais écoute, il a perdu ses richesses, il t'adore. Il a perdu ses enfants, il t'adore. Mais ce qui est important pour un homme, parce qu'il se dit probablement, puisque je suis en bonne santé, probablement j'aurai encore d'autres enfants. Mais si tu le touches, et si tu le touches dans sa santé, à partir de là, il va t'abandonner. Et Dieu va encore permettre cela. Et le diable va le toucher. Il va avoir des maladies de la gale et n'importe quoi. En tout cas, une maladie, des ulcères, qui font qu'il ne peut même pas rester debout parce qu'il était couvert de plaies. Il sentait mauvais. Aujourd'hui, on dirait que c'est une maladie inconnue en tant que telle. À l'époque, la médecine ne pouvait rien faire pour lui. Et il était là, à tel point qu'il va quitter celui qui était considéré, qui prenait les décisions, il va se retrouver dans la situation de quelqu'un, d'un animal. Pourquoi? Parce qu'il va rester dans la cendre, parce que c'était là le seul endroit où il se sentait en paix. C'est là où il pouvait quand même dormir un peu, parce qu'il y avait les cendres qui pouvaient calmer ses douleurs. Voyez-vous. Et ça aussi, c'est important pour nous, en tant que tel. La santé est la chose la plus importante. Et là, j'ai fait plusieurs tours ici, j'ai vu qu'il y a plein de places de wellness, bien-être, vous voyez, le business de la santé. Hein, moi, je dois perdre du poids pour que mon ventre diminue en tant que tel. Mais ma femme me dit, mais tu es trop gros et tout, voyez-vous. Hein, le fitness évolue en tant que tel et nous courons. Pourquoi? Parce qu'on veut rester le maximum en bonne santé en tant que tel. Et donc, les gens dépensent des millions et des millions pour pouvoir être en très bonne santé. Mais lui, Job, il va le perdre. Et c'est cet homme-là, sur ces trois critères qui fondaient sa vie et qui fondent aussi le nôtre aujourd'hui, qui va dire ici, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il va se poser des questions. Il va poser des questions, d'autant plus que trois de ses amis vont venir maintenant, vont lui dire, mais Job, écoute, nous sommes venus te consoler. Au lieu de venir le consoler, ils sont venus encore l'affliger, encore l'accuser pour dire, mais sûrement, si tu vis ces choses-là, c'est parce que tu as péché contre Dieu. C'est parce que ta vie n'est pas en règle. C'est pour cela que tu vis dans cette situation. Il va essayer de se défendre. Mais comme il était dans une situation de faiblesse, il va se plaindre. Il va se plaindre à un moment, il va se rappeler de qui est Dieu. Et c'est là où il va crier. Oui, j'ai perdu mon bétail. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu même ma santé. J'ai tout perdu en tant que tel. Même si vous pouvez m'accuser, même si le diable peut m'accuser, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Voyez-vous, on ne peut pas, et nous chrétiens en tant que tels, aujourd'hui on ne peut pas se baser seulement sur ce que Dieu nous a donné. Il faut que notre foi soit basée sur le Rédempteur en tant que tel. Parce que nous perdrons un jour la santé, nous perdrons un jour les biens. Nous, pardon?
C'est une geste que le diable fait.
Je n'ai pas compris.
C'est une geste.
Dieu. Une injustice, vous dites?
C'est l'injustice, donc
l'injustice qui gagne. Oui, c'est comme si l'injustice a gagné en tant que tel, si je comprends bien. Hein?
Oui.
Oui, en tant que tel. Oui, mais ça, c'est ça. Mais en général, c'est ce que les gens vivent. Je vous ai parlé de mon pays d'origine. Nous, dans mon pays d'origine, j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a beaucoup fait plaisir parce qu'il a été dans le village de mon père, la ville de mon père. On a une église. On est dans un pays 85% de chrétiens en tant que tel. On a fait des choses. Moi, dans ma ville, où actuellement, dans mon quartier actuellement, où aucun chrétien ne peut prêcher, on a prêché chaque ruelle. On est allé de ruelle à ruelle. On a prêché, on a créé des églises. Et puis un beau matin, tout s'écroule. Ouais, aujourd'hui, je vous parle, vous ne pouvez pas. Aucun chrétien n'entre dans ce quartier. Des pasteurs ont été tués. On a attaché des pasteurs avec des cordes. On les a traînés sur des milliers de kilomètres. Déchiquetés en tant que tel. Et là, vous vous dites, mais Dieu, où es-tu? Ouais. Moi, je connais qui peut-être un jour pourrait l'inviter ici, qui a perdu même sa femme, qui est française. Hein? Il a conduisé sa voiture, un accident, et sa femme qui est française, et deux de ses derniers enfants, trois morts sur le coup. Et là, on s'est dit, mais Seigneur, c'est ton serviteur. Mais celui-là, quand il prêche, il vous enseigne la parole. Mais Seigneur, comment tu as pu permettre un certain nombre de choses? Ouais. Mais c'est ça, la vie chrétienne. Ouais. Nous, on est ici, surtout en Suisse, où tout semble bien. Mais nous allons dans des moments très difficiles. Les lois qui sont en train de prises sont des lois qui vont contre nos convictions, souvent. Et à un moment, il va falloir prendre position. Et ça peut nous amener loin. Moi, j'ai lu, parfois, je reçois aussi, comme vous, sûrement, des journaux, des mails d'églises persécutées en tant que telles. Et souvent, quand une église persécutée, dans mon pays, Porte Ouverte a écrit beaucoup à Centrafrique, pasteur tué et tout. Mais est-ce qu'ici on peut tout dire? On ne peut pas tout dire. Si je me lève aujourd'hui pour aller prêcher à l'hôpital, j'aurai des problèmes. J'ai des chrétiennes qui sont là, qui m'ont dit, nous sommes là, nous travaillons avec des gens en fin de vie. Mais on ne sait pas, on ne peut pas, on sait que la personne va mourir. Mais on ne peut pas parler de Dieu parce qu'on nous interdit de parler de Dieu. Ça, c'est des situations complexes pour nous, qui posent des questions de conscience. On le dit ou on ne le dit pas. Si je le dis, je perds mon travail. J'ai signé un engagement, comme quoi je ne vais pas dire. Voyez, ça aussi, ça peut poser un certain nombre de questions sur lesquelles nous devons avoir des certitudes. Et là, il perd tout. Et il dit ici, au verset 19, « Mais, même si j'ai tout perdu, mon Rédempteur est vivant. » C'est ça, cette certitude. Notre certitude, c'est que Christ est vivant. On l'a chanté. Il est mort, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Ça veut dire que si on perd quelque chose, il est capable de nous en donner plus. Et c'est ce qui va arriver dans la situation de Job. Pourquoi? Parce qu'il aura trois certitudes sur lesquelles je voudrais brièvement m'arrêter pour ne pas dépasser l'heure. Je crois qu'il me reste combien de temps, Pascal? Ah ben, oh ouais, c'est bon. Est-ce que le rythme est bon pour vous? Ok. Donc, je m'excuse parce que j'utilise un iPad et je vais vous dire à peu près les trois certitudes que nous, chrétiens, nous devons avoir aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'on peut perdre le statut social. Moi, je suis professeur à l'université. J'ai dû quitter pour aller faire une autre activité qui m'a amené dans un pays d'Afrique et je suis revenu à l'université. Mais un jour, on peut venir me dire, ben écoutez, tu aimes prêcher Jésus, tu t'en vas. D'ailleurs, une fois, on m'a demandé cela. Quand j'étais arrivé en Suisse, je devais faire un stage. Je ne savais pas, mais ils ont fait exactement ce que l'Église a fait sur moi, c'est-à-dire savoir qui j'étais. Et il se trouve qu'on m'invite, deux dames qui m'invitent et qui me disent, oui, votre CV nous convient, vous avez bien, mais on a un problème. Il paraît que vous prêchez dans une église ici à Genève. Et mais nous, on est contre. Ah non, est-ce que dites-nous la limite entre ce que vous faites et ce que nous voulons faire? Et, ah bon, moi j'étais choqué parce que je venais d'Afrique. Je me suis dit, ben voilà, je savais pas qu'on pouvait faire un certain nombre d'enquêtes sur quelqu'un avant de le nommer en tant que tel. J'ai dit oui, je prêche, mais c'est ma vie privée. Alors si je suis dans votre bureau, si je dois prendre la parole à l'ONU pour parler au nom de votre association, je ne parlerai pas de Jésus. Mais par contre, si je sors de ce bureau, je peux parler de Jésus à qui je veux. Et on est d'accord sur ce point. Ils ont dit, ok, si tu nous donnes l'engagement que tu ne parleras jamais de Jésus au Conseil des droits de l'homme, dans les activités pour lesquelles nous t'avons donné le temps de stage, on accepte. J'ai dit, ok, mais vous aussi, si vous entendez que j'ai prêché à l'extérieur, ne venez pas empiéter dans ma vie en tant que tel. Et donc, on a fait le deal. J'étais surpris, mais c'est ça qui va arriver. En tant que tel. Donc ça veut dire que moi, là où je vous parle, dans ma tête, je me dis, mais peut-être qu'un jour, je vais prêcher et puis la personne ne sera pas d'accord, on va me mettre à la porte. Ouais. Et je me prépare à ça. Je ne vais pas perdre ma foi pour ça, en tant que tel. Ouais. Même si je vais perdre de l'argent, c'est clair. Je perds un statut. Parce que vous savez, quand je vais en Afrique, on m'appelle docteur, c'est plaisant. Hein, docteur Lessin, docteur tout, mais ça pose des problèmes. Et vous savez, en Afrique aussi, beaucoup de problèmes, je le disais tout à l'heure. J'ai beaucoup voyagé, je voyais beaucoup. D'ailleurs, c'est parce que, à cause de la santé de ma femme, j'ai arrêté de voyager que je suis avec vous. Sinon, pas en principe, je devais être au Cameroun. Je devais quitter le Cameroun aujourd'hui, en tant que tel. Mais quand je vais, je discute avec les ministres africains, avec les responsables. On est dans deux mondes différents. Ils ont une position sociale telle que, ils ne veulent même pas faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que, dans beaucoup de projets, ils attendent d'avoir d'abord quelques récompenses pour leur propre poche avant de faire les choses en tant que tel. Et face à ces gens, parfois, vous prenez des positions qui vous créent des problèmes en tant que tel. Mais je me prépare à ça. Parce que je sais que si Job l'a vécu, moi je dois le vivre, les apôtres l'ont vécu, nous, je vais le vivre en tant que tel. Donc je ne suis pas pessimiste, bien au contraire. Mais je sais que les lois où nous allons en Suisse ici, pour être dans le domaine, dans les discussions en tant que tel avec les gens qui sont en train de prendre des lois pour Genève ou même pour la Suisse, je sais qu'on va contre la parole de Dieu. Et ça, il faut qu'on se prépare. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, ok. Donc ici, Paul, il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va élever la situation. Il va s'élever au-dessus de la chose. Il va dire, oui, j'ai perdu mon bétail, je ne suis plus quelqu'un de considéré, je suis en faillite. Oui, j'ai perdu mes enfants, je me retrouve à rien du tout, ma femme est contre moi en tant que telle. Oui, je me retrouve dans la santé en tant que telle, mais je sais que celui qui m'a donné la vie pourra me donner encore une autre vie. Oui. C'est ça notre avantage en tant que chrétien. C'est que nous savons que même si on perd tout, Dieu a le pouvoir de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est notre rédempteur. Là, il va dire, c'est celui mon sauveur. Et le mot, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Géol. Géol, ça veut dire quoi? Il est rédempteur. C'est celui qui m'a enlevé mon péché. C'est celui qui a fait que je suis ce que je suis. C'est celui qui pourra me sauver à nouveau. Même si je perds tout. C'est pour ça que je vais m'accrocher à lui. En tant que tel. Et là, Paul, Job ne dira pas, je pense que. Il dit, je sais qu'il va le faire. Et ce matin, il faut qu'on ait des certitudes, frères et sœurs. Si on n'a pas des certitudes, on va partir. Même dans l'enseignement de la Bible, il y a beaucoup d'enseignements qui vont contre la parole de Dieu. Et mais parfois, des églises aussi prennent position pour certains enseignements qui sont contre la parole de Dieu. Il faut savoir qui tu es. Jésus, ce n'est pas un nom. Jésus, ce n'est pas une information. Il ne faut pas qu'on vive sur des informations. Il faut qu'on vive Dieu. Voyez-vous, il faut qu'on vive avec Dieu. Il faut que Dieu nous parle. Il faut qu'on entretienne nous-mêmes notre relation avec Dieu. Ça, c'est le capital, c'est le plus important. Parce qu'un jour, imaginez si l'église devait fermer et si on ne pouvait pas se réunir. Un jour, chez nous, dans le temps, on faisait ce qu'on appelle la pastorale. On invitait des pasteurs. Et puis un pasteur camerounais est venu, un vieux, très respecté, très respectable en son temps, qui est maintenant auprès du Seigneur. Il a dit un jour, j'étais là, et puis Dieu me dit, ferme ton église. Il m'a dit, mais comment ça, fermer l'église? Où est-ce qu'il a pris la Bible? Il a essayé de lire dans la Bible où l'apôtre ou bien un verset biblique qui a demandé, Dieu a demandé à un pasteur de fermer l'église. Il a dit, mais non, je suis pasteur. Dieu lui a dit, ferme ton église. Parce que ton église est arrivée à un tel point qu'ils ne me connaissent plus. Et lui, il a eu de la peine. Il y a eu d'autres personnes à l'extérieur qui ont dû l'appeler pour lui dire, voilà le message pour ton église. Pour toi, Dieu te demande de fermer l'église. À contre-cœur, il a dû fermer, je crois, 300 églises. Il a pris la clé, il l'a donné à quelqu'un. Dieu lui a dit, attends-moi, c'est moi qui vais parler. Et 6 mois, ou je crois 6 mois après, Dieu lui a dit, tu peux ouvrir l'église. Quand il a ouvert l'église, il est venu, il a été surpris de voir que ces chrétiens qui étaient dans son église venaient juste parce que c'était devenu une routine. Et beaucoup étaient dans des situations qu'il ne fallait pas. Ils sont venus tomber et se repentir, racontant ce qu'ils ont fait et rétablir leur relation avec Dieu en tant que tel. Parce que le but c'est ça, c'est vivre avec Dieu qui est le plus important, marcher avec Jésus qui est le plus important. Et la manifestation de la marche régulière avec Dieu nous permet de venir à l'église, à la communion fraternelle, travailler pour le Seigneur ensemble, sous le chapeau ou bien sous la conduite de Dieu, que Dieu, des personnes, des hommes ou des femmes que le Seigneur a mis à la tête de l'église en tant que tel. Et donc c'est important pour nous de vraiment connaître qui est Jésus-Christ, qui est le Rédempteur. Parce que le jour où tu perds tout, tu sais qu'il est avec toi. Et Paul dira, Job dira aussi quelque chose ici, le mot Rédempteur aussi est dit mon vengeur. Jésus est mon vengeur. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais réagir, mais c'est lui qui va me défendre. Et c'est Dieu, Jésus qui est notre avocat. Souvent les gens quand ils pensent, vous savez quand on appelle quelqu'un avocat, on dit c'est la défense. L'avocat prend la défense de quelqu'un. Et là Job va dire, Dieu est mon défenseur. C'est lui qui va me venger par rapport au diable. C'est lui qui va rétablir la situation. Voilà pourquoi je ne veux pas l'abandonner. Parce que si je perds tout et que je perds celui que je sers, je n'ai aucun espoir en tant que tel. Mais je sais qu'il agira. Parce que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Et il est vivant au siècle des siècles. Et donc à partir de là, je peux être en joie, même si je perds tout du point de vue humain, je perds tout du point de vue social, je perds tout du point de vue de la famille, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et à la fin, et pour terminer, il dit ici, et après que il dit aussi, et il se lèvera le dernier sur la terre. Voyez-vous ? Il reconnaît que Jésus est son que Dieu est son Rédempteur. Il reconnaît que c'est lui qui est son vengeur, son avocat, son garant devant tout ce qui peut lui arriver. Et ensuite, il dit ici qu'il est le dernier. Et j'ai beaucoup aimé ce que Pascal a dit tout à l'heure. Dieu est souverain. Vous savez, quand vous allez dans une cérémonie, je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude, qui vient en dernier lieu? C'est le patron en tant que tel. Et quand vous êtes dans une cérémonie, j'ai beaucoup assisté, quand vous allez pour ouvrir le bal ou pour faire quelque chose, c'est souvent la personnalité la plus élevée en tant que telle, qui se lève en dernier, qui prend la parole en dernier lieu. Ce n'est pas le plus important. Chez nous, quand il y a des cérémonies, vous avez les ministres, tout le monde qui vient, et ensuite le président de la République, il vient en dernier. Et ensuite, quand on fait les cérémonies, on donne la parole à tout le monde, et c'est le plus élevé qui se lève en dernier, qui prend la parole, qui dit, ok, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre la séance de votre activité, j'ouvre la séance de votre séminaire ou de l'activité que vous allez faire. Parce que c'est l'autorité, c'est lui le souverain en tant que tel. Ouais. Et là, il dit, c'est lui qui se lèvera en dernier. Dieu est souverain. Jésus-Christ est souverain. Et là, je pouvais crier. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais que j'ai tout perdu. Mais je sais qu'il peut me redonner tout ce que j'ai perdu en tant que tel. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Je vous ai dit tout à l'heure que ma femme n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'un beau matin, elle va faire des pistages de routine. Et on nous rappelle quelques semaines après en disant, il faut qu'elle refasse. Et déjà, c'est quelque chose qui est un peu suspect. Et là, boum, verdict, cancer de sein. On n'en revenait pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Des questions qu'on s'est posées. Au milieu de la nuit, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on a fait quelque chose? J'étais allé essayer à Lyon, en pleine route, avec les étudiants, ça s'est bien passé. Mais après, je suis là, j'étais là à Lyon. Il y avait les larmes qui me coulaient aux yeux. Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire en tant que tel? Mais, je me suis rappelé de Job. Je me suis dit, mais Dieu nous a fait beaucoup de choses. Je suis passé dans des moments très difficiles en Centrafrique. Des moments hyper difficiles. C'est pour ça que je tiens à parler de la République centrafricaine. Là où on tire tellement que vous ne savez même pas si vous allez vous réveiller. Parce que les balles partent de toutes parts. pour tomber dans un coin et puis ça tirait. Et je me suis rappelé de là où j'ai dû me lever les mains parce qu'on m'a braqué dessus et j'ai dû parler, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, bon, voilà, je suis dans une situation, je dois absolument traverser cette route, mais on tire de tous côtés. Si ma vie doit finir, qu'elle finisse. J'ai levé les mains, j'ai vu l'arme qu'on a braquée sur moi et j'ai continué à prier. Vous savez, il y a des moments où on confesse tous ses péchés. Et moi, j'étais dans cette période-là. J'ai dit, Seigneur, peut-être que j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et puis, bon, voilà, on y va. J'ai vu le sniper qui avait l'arme et qui était là. Et puis, le canon aussi, parce que vraiment, c'était des combats qui allaient passer, qui se déroulaient. Et j'étais là. Il ne savait pas qui il était. Donc, pour se protéger, il pourrait me tirer. Et je suis passé. Et dès que je suis arrivé au coin de juste d'une de nos églises où j'étais protégé, j'ai baissé les bras, j'ai couru. Je vous assure que 5 minutes après, on n'entendait plus rien. On n'entendait plus rien, il n'y avait que les roquettes et autres qui passaient, tout. On entendait des cris après parce que des gens étaient morts. Et là, j'ai dit au Seigneur, si tu m'as préservé dans cette situation, nous surmonterons le cancer au nom de Jésus. Vous voyez? Et là, ma femme est à la 3e chimio, elle a fait vendredi, et là, elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Et donc, je lui ai dit, quand même, laisse-moi venir prêcher quand même. Vivre quelque chose d'autre avec une nouvelle église, parce que si c'était Jéricho, j'aurais pu laisser tomber. Mais cela, ça m'a permis de voir la foi de Job. Et j'ai compris ce verset-là, c'est pour ça que je l'ai choisi. Même mon rédempteur est vivant. C'est vrai que passer la chimio, je vous assure, c'est pas facile. Après, les effets secondaires, ça change toute une personnalité pendant 10 jours, 10 à 15 jours. Et puis la 3e semaine, il faut repartir. Quand ça commence à aller, il faut repartir. Et chaque fois, on a prié. On a connu Dieu plus qu'auparavant, je peux dire. La chimio nous a permis de savoir qu'on n'est rien, mais on est tout. On n'est rien parce que notre vie peut partir à tout moment. Mais c'est bon parce que dans ce moment difficile, Jésus est avec nous. Voyez-vous, il est là, il nous soutient. Et donc là, on a cette assurance-là que Dieu est avec nous et il pourrait faire quelque chose. C'est là où ce verset, j'ai compris. Je vous assure, avant, je parlais de Job. Mais là, j'ai compris ce que Job pouvait vivre dans sa chair. Et là encore, ce n'est pas ma chair à moi, c'est ma femme à côté. Mais au milieu de la nuit, quand vous devez vous lever, votre femme est là, vous devez l'accompagner partout parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Pendant 3 jours, elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas fermer les yeux. C'est là où vous ressentez les choses. Et là, vous comprenez la foi de Job. Et si je vous le dis ce matin, c'est que, quel que soit ce que vous vivez de difficile, sachez que Jésus-Christ est ressuscité. Et qu'il est toujours vivant. Et qu'il agira. Parce qu'il est souverain. Voyez-vous, même les lois qu'on prend, il y a plein de lois où on est. Quand on a les lois, on sait que c'est antibiblique. Et beaucoup de lois seront antibibliques. Tout ce qu'on est en train de faire va aller contre la parole de Dieu. Ça, c'est dedans. Mais dans tout cela aussi, Dieu est toujours souverain. Parce que vous avez étudié ici, j'ai vu sur votre site internet, Apocalypse. Pour que l'Apocalypse arrive, il faut que les choses se mettent en place. Par exemple, la souveraineté de Dieu. Quand je me suis converti à 38 ans, j'étais jeune, j'avais juste 13 ans, vous voyez. Donc j'ai 51 ans. Et comme on dit, à partir de 50 ans, on est le plus jeune des vieux. Donc je suis déjà un vieux en tant que tel. Voilà. Donc, vous voyez, moi je me disais, mais comment on disait que Jésus allait venir, tout le monde allait le voir, et puis tout le verra. Je ne savais pas. Mais à l'époque, maintenant, on peut savoir. Vous avez Facebook, vous avez les réseaux sociaux. À notre époque, il n'y avait rien. Voyez-vous, et là j'ai compris que tout ce qui se fait là va dans la volonté de Dieu et Dieu accomplira sa volonté. Voilà pourquoi, quel que soit ce que vous allez vivre à partir d'aujourd'hui, sachez que votre Rédempteur Jésus-Christ est vivant et qu'il ne vous laissera pas. Que le Seigneur vous bénisse.